RFJ Info.
Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour. Des vélos sous les tunnels du Montéry et du Mont-Russelin, c'est ce que veut le groupe Vert SCS Pop au Parlement. Une motion a été déposée. Explication en détail dans un instant. Ils clament leur attachement à Moutiers comme ville bernoise. Des présidents de divers partis politiques se sont réunis ce matin dans la cité prévotoise. Rassemblement qui tranche avec le peu d'action en faveur de Moutiers prévoté. Vous l'entendrez. De la revanche dans l'air entre l'équipe suisse de hockey sur glace et le Danemark. Battu il y a quelques jours, la Suisse retrouve les Danois ce soir à Bâle en amical, avec encore quelques détails à régler avant les mondiaux qui commencent dans une semaine. La météo, un peu de soleil pour l'après-midi, quelques gouttes de pluie encore possibles et le temps reste frais, 9 degrés au mieux. Des vélos qui circulent sous le Montéry et le Mont-Russelin. Il faut également penser aux cyclistes dans la perspective d'une éventuelle ouverture d'un second tube sous les deux montagnes. Le groupe Vert CS Pop a déposé une motion en ce sens au Parlement jurassien. François Comte.
La démarche du groupe Vert et CS Pop est portée par la députée Erika Henkin. Elle fait suite à l'adoption par le Parlement en septembre dernier d'une motion transformée en postulat du radical Alain Schwenk-Gruber. Le texte demande au gouvernement jurassien d'intervenir auprès de la Confédération pour mettre un deuxième tube en circulation, soit en ouvrant la galerie de secours, soit en creusant un nouveau tunnel. Pour Erika Henkin, la demande jurassienne auprès de la Berne fédérale doit également intégrer le trafic cycliste.
Moi, ce que je veux, c'est qu'on envisage la possibilité que les cyclistes puissent passer sous le tunnel des Rangiers. Il y a une motion du Parti libéral radical qui a été acceptée par le Parlement. Il demande d'étudier l'option d'ouvrir un tube pour les voitures. Et ce que nous voulons absolument, c'est qu'on ne pense pas seulement voiture, parce qu'on n'est plus au XXe siècle, il faut peut-être voir un petit peu plus loin, et étudier également l'option de permettre aux cyclistes d'emprunter cette voie-là, de passer sous le Mont-Russelin et sous le Montéry.
Reste que pratiquement trois options seraient possibles. La première consisterait à ouvrir la galerie de secours aux cyclistes, ce qui paraît très difficile, puisque cette structure permet de répondre à d'éventuels problèmes de sécurité. Deuxième hypothèse, construire un tube uniquement pour les cyclistes. Ou alors la dernière, faire cohabiter voitures et cyclistes dans le second tunnel en question. Erika Henkin reconnaît que tout cela ne paraît pas évident.
Tout est ouvert, je veux dire, tout n'est certainement pas faisable. Mais après, c'est aux spécialistes de donner des réponses si on décide pour les cyclistes. Voilà, après, il faut voir comment le réaliser effectivement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas envisager qu'un tube supplémentaire pour les voitures. Il faut aussi envisager d'autres possibilités.
De l'idée à la réalisation, beaucoup de voitures risquent donc encore de passer dans les tunnels.
Une affaire d'escroquerie devant la justice jurassienne. Un homme comparaît depuis ce matin devant le tribunal pénal de première instance de Porrentruy. Le prévenu d'origine africaine est soupçonné d'avoir arnaqué 4 personnes. Il promettait aux plaignants de leur faire gagner de l'argent à l'euro million, puis il est accusé de leur avoir soutiré 30 000 francs, puis de leur avoir volé 50 000 francs supplémentaires. Leïla Hussein, vous avez assisté à l'audience ce matin. Comment cet homme aurait procédé pour escroquer ses victimes ?
Deux techniques bien rodées avec un point commun, celui de cibler des personnes dans une situation précaire, des personnes vulnérables, voire désespérées. Dans le premier cas, le prévenu publie une annonce dans la presse se présentant comme un médium ou encore un marabout. Une fois en contact avec le plaignant, le prétendu voyant réclame une contribution financière de l'argent qui devrait permettre de procéder à des prières, à contacter des esprits ou encore à faire réaliser des sacrifices en Afrique. Tout ceci pour aider son client. Au total, le plaignant aura déboursé 30 000 francs pour ses services sans résultat. La deuxième manipulation, plus complexe, a touché un couple octogénaire et leur fils. L'homme assis sur le banc des accusés assure aux époux de pouvoir les faire gagner à l'euro million. Les persuadant que l'argent appelle l'argent, le prévenu leur demande de placer une somme conséquente dans une caissette qui devrait rester à leur domicile. Mais profitant de leur inattention, l'accusé subtilise les billets, laissant la boîte vide. Une démarche réalisée à 2 reprises, au total cela représente 50 000 francs. Aujourd'hui, devant le juge, le prévenu assure n'être que la marionnette, l'intermédiaire d'un marabout en Afrique. Ce serait cet homme qui lui a demandé de faire tout ceci récupérant au détour la totalité de l'argent des plaignants.
Et l'avocat de l'accusé demande donc l'acquittement pour son client. Du côté du ministère public, la procureure requiert 7 mois de prison ferme et 10 ans d'expulsion de Suisse. Une démission au conseil communal des Bois. Le conseiller communal Johnny Combremont a annoncé aux autorités de la commune qu'il quittait son poste avec effet immédiat. Décision motivée par des motifs personnels et professionnels. Des présidents de partis politiques de tous bords réunis ce matin à Moutier pour clamer leur attachement à la ville. Le PBD, le PEV, le PLR, le PS, l'UDC et l'UDF répondaient à l'invitation du comité Moutier-Gitien, comité qui milite pour le maintien de la cité prévotoise dans le canton de Berne. Ce comité composé de personnes externes à la ville veut montrer que l'ensemble du Jura bernois s'engage dans cette campagne et pourtant les actions citoyennes en faveur du non sont peu nombreuses. Comment l'expliquer? La réponse de Virginie Ayer, coprésidente de Moutier-Gitien.
Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a déjà la lassitude que les gens ont par rapport à cette question qui est là quand même depuis 40 ans dans notre région. Et puis il y a aussi l'effet, est-ce qu'on ose parler? Quels seront les retombées? Ça, on le sent quand même très clairement. Et on l'a vu notamment par l'action de la conférence des maires. À peine qu'il y a un mouvement qui dit qu'il faut voter non, c'était d'ailleurs aussi le cas pour le CJB, tout de suite il y a des réactions de la part des autorités séparatistes de Moutier. Et je pense que ça, c'est aussi un facteur qui retient les gens de s'exprimer.
Et cette réserve fait écho à l'affiche de l'UDC du Jura bernois présentée la semaine dernière qui dénonçait une loi du silence. Si la plupart des partis présents ce matin estiment le graphisme de cette affiche qui compare les jurassiens à des rongeurs, graphisme malheureux, son message est en revanche justifié. Gérard Bigler, membre du comité du Parti socialiste du Jura bernois.
Cette affiche de l'UDC, que je n'aime pas beaucoup, mais qui a quand même quelque chose de très juste, c'est l'omerta. Beaucoup de gens à Moutier n'ont plus le droit de parler. Si vous parlez, on vous tape sur la tête. Si vous donnez votre avis, on vous coupe des possibilités d'avoir du travail, etc. Et les gens le ressentent, ça. Hein. Donc, beaucoup de gens, de petites personnes, préfèrent se taire. Et on verra le résultat lors des votations.
Un dossier signé Alexandre Steiner. La coprésidente de Moutier-Gitien, Virginie Ayer, indique tout de même que des petites actions devraient avoir prochainement lieu dans divers endroits du Jura bernois, notamment à Orvin. Coup d'envoi ce soir du Festival du Sud 2017 au cinéma Lagrange et à Cinémont. Une douzaine de films seront projetés à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Leur particularité, ils viennent de toute la planète. Cette édition vous emmènera au Népal, en Corée du Sud, Égypte, Bolivie, bref un peu partout. Ça commence ce soir à Cinémont dès 19h15 pour l'apéritif. Premier film à 20h15. Ça s'appelle Django et ça retrace l'histoire du célèbre guitariste tzigane. Deux artistes jurassiennes seront également à l'honneur ce soir à la Galerie Paul Beauvais de Delémont. L'artiste photographe Vanessa Kunz de Glovelier et Lara Parat de Delémont inaugurent leur exposition Empreintes et grands espaces. Vernissage dès 18h30, Galerie Paul Beauvais. L'exposition restera un mois, soit jusqu'au 28 mai. Un pilote seul dans le cockpit de son avion, c'est de nouveau possible. La compagnie aérienne Swiss abandonnera lundi prochain la règle imposant la présence permanente de deux personnes dans le poste de pilotage. La règle avait été mise en place suite au crash intentionnel d'un appareil de la Germanwings en 2015. Souvenez-vous, le copilote s'était enfermé seul dans le cockpit et avait entraîné 149 personnes dans la mort avec lui. Mais un audit de sécurité a démontré que cette mesure n'améliore pas la sécurité à bord, Séverine Boya.
Depuis 2015, si l'un des pilotes d'un vol suisse s'absentait pendant le vol, un autre membre d'équipage devait systématiquement être présent dans la cabine de pilotage. Mais la compagnie aérienne explique ce matin dans un communiqué qu'elle répond à l'ensemble des exigences de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui permet de s'affranchir de cette règle. Les anciennes dispositions d'accès au poste de pilotage sont donc remises en vigueur. En février 2016 déjà, les pilotes avaient fait part de leur scepticisme concernant la règle des deux personnes. Les pilotes de Suisse et l'Association des pilotes de l'Union européenne avait indiqué qu'ils ne soutenaient pas le maintien de la règle. Selon eux, cette dernière impliquait de nouveaux risques avec la présence dans la cabine de pilotage de personnes n'ayant pas de connaissances opérationnelles. A noter que cette décision d'abandonner cette procédure a été prise en concertation avec l'ensemble des compagnies aériennes du groupe Lufthansa, dont Suisse fait partie.
Et d'autres mesures sont adoptées par la Suisse, notamment dans les procédures de recrutement des pilotes ainsi qu'un accès à des programmes de conseil et de soutien psychologique. On pourra conduire une voiture avec un L dès l'âge de 17 ans. La Confédération met en consultation aujourd'hui la révision de la formation à la conduite qui vise avant tout à améliorer la sécurité sur la route. Le projet prévoit un certain nombre d'aménagements qui réduiront les coûts de formation. Aperçu de ces mesures avec Jérôme Favre.
Un jeune pourra déjà suivre les cours de théorie à 16 ans afin d'obtenir un permis d'élève conducteur dès 17 ans, permis qui sera valable de manière illimitée. Mais quel que soit son âge, au moment où il demandera ce document, il devra attendre 12 mois avant de pouvoir se présenter à l'examen pratique. Avant ce test, il devra obligatoirement prendre 2 leçons auprès d'un moniteur afin de s'exercer au freinage d'urgence d'une part et d'autre part d'adopter une conduite efficace au niveau énergétique. Une fois le permis provisoire obtenu pour une période de probation inchangée de 3 ans, il devra passer un cours de formation complémentaire au lieu de 2. La formation obligatoire passera ainsi d'un total de 24 heures actuellement à 16 heures.
La diminution de la durée de la formation obligatoire ne menace pas la sécurité selon Jürg Rüttlisberger, le directeur de l'Office fédéral des routes.
Bon, il y en a 2 heures d'obligatoire, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis, il est vrai que là, il n'y a pas de prescription, mais il y a de fortes recommandations à cette clientèle d'utiliser ces 12 mois, justement, pour obtenir un maximum de pratiques. Personnellement, j'estime que ces recommandations vont suffire parce que, justement, tout le monde en est conscient que c'est la pratique qui fait foi, le nombre d'heures roulées dans le trafic, et ils vont profiter de ça persuadés.
Et les milieux concernés ont 6 mois pour faire part de leurs commentaires. Les premiers changements pourraient intervenir en juillet 2019.
RFG, il est 12h26.
Le sport avec la loterie romande.
C'est un derby qui sent la sueur froide sur fond de maintien. FC Basse-Cour et SR Delémont ce soir à 20h30 au Grand Prix en Première Ligue de football. Les deux clubs jurassiens ne sont pas encore sauvés. Les SRD y sont presque avec 10 points d'avance sur la barre. Une victoire pourrait même leur assurer mathématiquement le maintien. Mais la lutte sera beaucoup plus longue pour Basse-Cour. Si le FCB est au-dessus de la zone rouge actuellement, c'est uniquement grâce à la différence de but, Mathieu Schaffner.
Le printemps n'est pour l'heure pas très joyeux pour les jaunes et noirs, que ce soit ceux des Grands Prés ou ceux de la Blancherie. Le FC Basse-Cour n'a engrangé que 7 points en 7 matchs. Il reste même sur 3 défaites consécutives, le président Albert Luza.
Tout tombe en peu de temps. L'équipe n'est pas sereine. L'équipe perd tout d'un coup ses moyens après un premier but. Ça bloque une équipe. Et c'est le gros problème de notre équipe, c'est le gros défaut de notre équipe depuis le début du championnat. C'est qu'elle n'arrive pas à sortir de ces moments tragique dans un moment de match qui ne sont pas graves, mais ils sont graves chez nous à Basse-Cour.
7 points pour Basse-Cour depuis la reprise, c'est une unité de moins que les SR de Lémont. Les protégés de Mikael Oy ont eu de la peine à se remettre en route. Ils ont dû attendre leur 6e match pour enfin fêter un succès. Leur président Patrick Fleury.
Bah écoutez, je pense qu'on n'a peut-être pas su être bon au bon moment, si on veut dire ça comme ça. Et puis justement, il y avait un peu trop de nervosité, peut-être un peu trop de pression. Et puis voilà, il manque peut-être encore un peu quelques renforts pour faire la différence, pour vraiment amener ce plus qui ferait qu'on soit dans les deux premiers.
Bien que l'objectif de la place de finaliste ne soit plus d'actualité, tout n'est pas à jeter à la poubelle dans le printemps des SRD, Patrick Fleury.
Le noyau, je crois qu'on a vu une équipe soudée, on le voit dans les 2 dernières victoires. C'est eux qui ont finalement fait pencher la balance pour les SRD parce qu'ils se sont réveillés, ils ont pris leurs responsabilités. Et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'on a été capable d'intégrer des jeunes. On le fait, ils ont commencé à jouer, d'entrer, une mi-temps. Donc ça me fait très plaisir, on va continuer dans ce sens-là.
Et malgré sa situation peu enviable au classement, le FC Basse-Cour ne vit pas un printemps tout noir. Son président prend du plaisir en voyant son équipe, Albert Luza.
Il y a beaucoup de positifs parce qu'on a un très beau jeu, un très beau football. Quand on fait circuler le ballon, quand on joue notre football offensif, quand on joue, tout est collectif. C'est une affaire de collectif. En gros, on est très satisfait de la façon de jouer de la première équipe. Les résultats ne suivent pas.
Et c'est bien là tout le problème, car pour se sauver, il faut des points. Et Basse-Cour en a plus urgemment besoin que de Lémont.
FC Basse-Cour, SR Delémont, le derby jurassien de Première Ligue de football, c'est ce soir à 20h30, match à suivre en direct sur RFJ dès 20h15, avec s'il vous plaît un ancien international au micro, Patrick Sylvestre sera notre consultant aux côtés de Raphaël Chalvera. 187 km au programme de la 3e étape du Tour de Romandie, ça se passe au Tour de Payerne aujourd'hui dans le canton de Vaud. Le régional de l'étape, Danilo Wyss, retrouvera les routes sur lesquelles il a l'habitude de s'entraîner, un parcours a priori taillé pour l'esprit sprinter, mais il n'est pas non plus complètement impossible d'imaginer une échappée victorieuse d'après Dani Lovis.
Il y a quand même 2000 mètres de dénivelé, il y a quand même toujours des bosses. Ce n'est pas une étape plate comme on a des fois sur le Tour de France ou sur d'autres épreuves. Pour moi, il y a quand même une possibilité pour une bonne échappée. S'il y a un gros groupe, un groupe de costauds qui part au départ, ça peut aller au bout également. Et c'est sûr que pour les équipiers, c'est une étape difficile à gérer.
Cette étape dans la Broye donnera évidemment des sensations très particulières à Dani Lovis. Le coureur de la BMC passera tout près de son domicile.
Oui, à 200 mètres de la maison, deux fois on a un passage à Estavayer. Bon, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de s'arrêter. C'est vraiment mes routes d'entraînement, ma région, et c'est sûr que ça sera une étape coup de cœur pour moi.
Et vous pourrez suivre l'évolution de la course dans nos éditions tout au long de l'après-midi. L'équipe de Suisse de hockey sur glace a une revanche à prendre ce soir, deux jours après sa défaite 5-4 contre le Danemark à la Chaux-de-Fonds. Les Helvètes croisent à nouveau les cannes avec les Nordiques à Bâle à 20h15. Match de préparation en vue des championnats du monde, les Modions qui vont débuter à Paris et Cologne dans une semaine. Et le sélectionneur suisse Patrick Fischer sait dans quel domaine son équipe doit encore progresser.
On doit jouer plus vite avec le rondelle et clairement la défense doit être plus stable comme on a joué les dernières 10 matchs. On veut gagner, mais on est en préparation aussi. J'ai toujours dit, les résultats ils sont importants, mais la chose plus importante, c'est qu'on est prêt mentalement et physiquement. Aujourd'hui, ce matin, on a travaillé encore très dur. Pour ça, je suis sûr qu'on va avoir une réaction bonne. Et après, on va finalement pour la dernière semaine de préparation avec le Canada.
Et l'équipe de Suisse jouera encore un match amical, ce sera mardi prochain à Genève contre le Canada. En hockey toujours, Yann Moziman s'en va dans le canton de Saint-Gall. Le joueur a porté les couleurs du HC Ajoie l'hiver dernier en Ligue B. Il a signé un contrat d'une saison avec Rapperswil. Le club saint-gallois l'a annoncé ce matin. Midi passé de 31 minutes sur RFJ. Bon appétit.
Merci Jérémy. J'ai une petite question qui me taraude là en entendant l'actualité. Vous aussi, vous devez jouer un peu plus vite avec la rondelle.
Joker. On passe à la météo ?
La météo avec Jurameca à Develier. Entretien, réparation, vente de machines de jardin et sa gamme de robots tontes Automower Husqvarna.
Les nuages se sont enfin dissipés, c'est le soleil qui recouvre l'entier de la région. Un soleil qui va être de plus en plus discret, qui va se faire de plus en plus rare durant l'après-midi puisque les cumulus vont revenir. La neige, la limite de la neige est passée de 400 à 700 mètres, on est donc tranquille pour un petit moment. Et du côté des Franches-Montagnes, par contre, le ciel sera bouché un peu plus prestement qu'à d'autres endroits. Les températures, elles sont fraîches, en ce moment il fait 8 degrés à Port-en-Truy, 9 degrés à Delémont et Moutiers et 4 degrés à Seigne-Légier. Demain, nous allons une fois de plus nous réveiller sous les nuages, mais ils vont très rapidement faire de la place au soleil. Les conditions seront donc ensoleillées déjà en matinée. Il se peut que quelques nuages planent ci et là, mais ils seront inactifs. Le temps restera donc sec. Température, demain toujours, elles oscilleront entre 10 et 14 degrés au meilleur de la journée.